Vous écoutez Europe 1, il est 18h. Votre grand journal avec Mathieu Béliard. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir Fatima, bonsoir à toutes et à tous. Une heure d'info, de débat. Ce soir, nous revenons sur la défense de François de Rugy, maintenu à son poste par le Premier ministre hier soir. Mon invité à 18h10, Jean-Luc Touly, ancien des Verts, soutien des Gilets jaunes, président du Front républicain d'intervention contre la corruption, ça ne s'invente pas, le fric. Dans le même temps, figurez-vous que l'ex-directrice de cabinet de François de Rugy, limogée hier, accuse le ministre d'avoir voulu sauver sa tête en se séparant d'elle. À 18h40, la défense de François de Rugy et les réactions dans la majorité, c'est avec Aurélie Herbemont du service politique de la rédaction. L'indignation après les violences qui ont émaillé l'après-qualification de l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. Des boutiques vandalisées sur les Champs-Élysées et pire, une femme tuée à Montpellier par un conducteur qui a perdu le contrôle de son véhicule. Son bébé à cette dame est grièvement blessé. Nous sommes à Montpellier, c'est dans quelques instants. L'affaire des bébés sans bras, première conclusion du comité d'experts indépendants. Vous savez, ces bébés nés sans bras ou mains dans l'Ain, la Loire-Atlantique et le Morbihan. Des parents déçus par ces conclusions. Aujourd'hui, on en parle à 18h20. Du football à la une ce soir, le chouchou des Français, le bleu Antoine Griezmann. On apprenait dans l'après-midi l'officialisation de son arrivée au FC Barcelone. Il n'y avait pas beaucoup de suspense, mais dans la foulée, l'Atlético Madrid conteste le montant de sa clause libératoire. Explication à Barcelone dans 20 minutes. Ce soir, l'éditrice de Nicolas Sarkozy nous donnera sur Europe 1 les derniers chiffres de vente du livre Passion, paru à la fin du mois dernier. C'est à 18h45. Et puis écoutez bien, je vous le disais, à 18h30, mon invité en studio, c'est Jacques-Charles Fombonne. Alors que certains d'entre vous partent en vacances, ce général de gendarmerie à la retraite est à la tête de la SPA aujourd'hui. 33% des Français n'imaginent pas partir en vacances sans leur animal de compagnie. On va parler de l'organisation des vacances avec un animal, de la campagne de la SPA contre les abandons. On va parler des bons réflexes aussi en ces temps estivaux. Avec vous peut-être, vous partez avec vos animaux en vacances. Je vous attends au 3921 sur le hashtag Europe 1 aussi. On est ensemble jusqu'à 19h.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
18h02 pour démarrer cette édition. Vous le savez, vous ne manquez rien, strictement rien du Tour de France sur Europe 1 avec le service des sports mobilisé et Axel May que l'on retrouve ce soir. Bonsoir Axel.
Bonsoir Mathieu.
Septième étape du Tour de France, Belfort-Chalon-sur-Saône. Vous m'arrêtez si je me trompe. Je crois que c'est l'étape la plus longue de ce Tour de France.
Oui, c'était l'étape la plus longue, hein. 230 km à parcourir, la plus lente aussi. Il y a eu 20 minutes de retard sur l'horaire le plus lent prévu par les organisateurs et comme attendu, arrivé au sprint. Et ce filou de Dylan Groenewegen est allé surprendre sur le côté gauche de la route Caleb Ewan, l'Australien, et Peter Sagan, le maillot vert. Alors je dois avouer, hein, Mathieu, que de mon poste de commentateur, avec une vision partielle de l'arrivée, je n'ai vu débouler qu'Ewan et je n'ai pas vu Groenewegen tant il était excentré. Succès à la photo finish. Groenewegen, 11e succès de la saison, sprinter le plus prolifique du peloton. Il était tombé, vous vous en souvenez, j'en suis certain, lors de la première étape à Bruxelles. Il a été formé par un grand nom du sprint néerlandais, Jean-Paul Van Poppel. Quatrième succès sur le Tour après celui de 2017 sur les Champs-Élysées, les deux de 2018 pour Groenewegen. Ciccone, l'Italien, reste en jaune. Et puis après 220 km d'échappée, Johan Ofredo est récompensé. Il est élu combatif du jour, le Français.
Eh bien écoutez, Axel May, merci beaucoup déjà. Et puis on vous retrouve à 19h, évidemment, pour le Club Tour, 19h-20h. C'est sur Europe 1 avec Thomas Voeckler, Patrick Chassé, avec vous au 39-21. Vous intervenez quand vous le souhaitez. Laissez-moi juste vous préciser d'une demi-seconde que le Club Tour, ça continue le week-end. Évidemment, les cyclistes continuent à grimper, à courir ce Tour de France. On continue le Club Tour avec Axel May, le service des sports de la rédaction.
Vous avez des choses à nous dire et on vous écoute. Appelez-nous au standard d'Europe 1, hein, le 39-21.
Nous sommes avec Gaëlle à présent. Bonsoir Gaëlle.
Bonsoir à tous.
Soyez la bienvenue sur Europe 1, ma chère Gaëlle. Vous êtes la première à passer à l'antenne avec nous ce soir et c'est le sujet dont j'ai beaucoup parlé avant le démarrage de ce journal. L'organisation des vacances avec des animaux. Est-ce que vous partez en vacances avec un animal de compagnie, Gaëlle ?
Alors non, comme j'ai dit tout à l'heure au standard, nous pour l'instant on ne prend pas d'animaux avec nous étant donné qu'on ne peut pas leur offrir des conditions optimales. On travaille tous les deux. C'est un crève-cœur de ne pas avoir d'animaux puisque mon mari, lui, étant jeune, avait des chats et des chiens. Et moi, j'avais un épagneul breton et un berger allemand. Donc, ça nous manque. Mais on préfère avoir ce manque plutôt que de faire souffrir des animaux en les laissant enfermés dans un pavillon.
Vous vous dites très simplement, Gaëlle, que vous ne pouvez pas offrir les conditions optimales de vie à cet animal de compagnie. Alors, vous n'en prenez pas. Je voyais d'ailleurs, pour le coup, pour des questions financières, beaucoup de Français sont prêts à payer plus cher leurs vacances pour pouvoir emmener leur animal de compagnie. Merci, Gaëlle.
Merci.
Peut-être que ce sera pour plus tard pour vous et votre compagnon. Je sens que ça vous déçoit de ne pas avoir d'animal de compagnie. En même temps, quand on aime les bêtes, on veut leur assurer le meilleur. Merci Gaëlle. Merci beaucoup.
Votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
18h05 à Montpellier, alors que beaucoup de jeunes célébraient la qualification de l'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avec des drapeaux, ou pour certains, en faisant des rodéos dans le quartier de la Mosson, un conducteur a perdu le contrôle de son véhicule et fauché une famille qui rentrait chez elle. Bonsoir Benjamin Péter.
Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous.
Vous êtes notre correspondant dans la région. Benjamin, le bilan est lourd. Une mère de famille de 42 ans, donc décédée, son bébé de 2 ans qu'elle promenait dans une poussette a été projeté. Il est actuellement encore entre la vie et la mort.
Oui, c'est dans ce virage sur l'avenue qui longe le stade de la Mosson que cette voiture qui roulait à très vive allure a percuté cette famille qui revenait du parc où ils tentaient de profiter de la fraîcheur de la nuit. Maxence habite juste à côté.
On a entendu une voiture arriver à grande, grande vitesse, qui a loupé le virage. Il a dû prendre le trottoir, bam, bam, et est allé s'encastrer dans le fond du mur, quoi, en prenant la famille. De la fête, on est passé au drame. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je suis pas tellement sûr.
Lui et quelques habitants tentent alors de prodiguer les premiers soins, mais la maman semble être morte sur le coup. Abderrahman, son beau-frère, s'est rendu ce matin au chevet du petit garçon de 2 ans grièvement blessé, dont l'état est stable selon les infirmières. Il est très en colère.
Petit a perdu une famille d'un coup. Avec les colères là, je ne peux pas sortir ce qui est dans mon cœur. Oui, il est roulé très vite. Tu as vu les traces qui y a là. Pour arriver à ça, c'est la vitesse qu'on ne peut pas rouler même à l'autoroute. C'est n'importe quoi.
Alors le jeune conducteur de 21 ans qui n'a pas tenté de fuir a été placé en garde à vue. Les premières analyses montrent qu'il ne roulait pas sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis. Et le parquet a ouvert une enquête pour homicide et blessures involontaires avec pour circonstances aggravantes le manquement délibéré à des obligations de prudence.
Merci beaucoup Benjamin Péter, notre correspondant dans le Sud-Ouest. Vous êtes sur Europe 1, il est déjà 18h07.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons revenir sur ces affaires autour de François de Rugy, le ministre de la Transition écologique et solidaire. Ses révélations du journal Mediapart, il se défend, il est maintenu en poste. On en parlait hier, ça ne plaît pas à tout le monde, on en parle dans un instant.
Et votre invité Mathieu, pour en parler justement, Jean-Luc Touly, président de l'association Front Républicain d'Intervention contre la Corruption. 9, votre grand journal du soir se poursuit sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et invité Jean-Luc Touly, président de l'association Front Républicain d'Intervention contre la Corruption.
Le fric, quoi,
oui.
FRICC, ça ne s'invente pas. Bonsoir Jean-Luc Touly.
Bonjour.
Clairement, vous avez de l'imagination, vous êtes le co-auteur des Recasés de la République aux éditions First. Quelques questions à vous poser. Je voyais ce titre d'une dépêche AFP, cascade de révélations embarrassantes pour François de Rugy. Et les mots sont bien choisis par l'agence France Presse parce qu'on est en train de parler de la question de la légalité aussi. Vous, du côté de cette association, le Front Républicain d'Intervention contre la Corruption, vous demandez au président actuel de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, la liste de tous les invités à ces dîners fastueux dont nous avons beaucoup parlé.
Avec les factures correspondantes pour chacun de ces dîners, pour y voir clair, et si, comme on le met dans le courrier qu'on lui a envoyé avant-hier soir, s'il ne nous communique pas, on déposera une plainte très rapidement, que nous sommes d'ailleurs en train d'établir avec notre avocat Joseph Bréham, parce que depuis mercredi soir, on en apprend tous les jours, toutes les heures, notamment la dernière, c'est que on est dans le lobbying, il aurait reçu, c'est Ouest France qui l'affirme.
Oui, je vois ça justement, Ouest France affirme voilà. Que François de Rugy a organisé au ministère un dîner avec un lobby de l'énergie.
Oui.
Ça vous semble
demandé,
trouble?
Ce qui me trouble, pas totalement, mais ce qui me trouble, c'est qu'il a demandé à ce dîner informel n'apparaissent pas dans son agenda public. Or, la loi Sapin 2 disait sur le lobbying que justement, il faut faire la transparence. C'est-à-dire que lorsque vous recevez notamment des industriels, il faut le noter, il faut que ce soit public. Or, là, on a l'impression qu'ils veulent le cacher.
C'est sûr que le ministre de la Transition écologique et solidaire doit parler avec les acteurs de l'énergie. La question de l'agenda public est une vraie question. Vous avez en partie raison de la poser. En tout cas, Jean-Luc Touly, on attendra de voir les développements et ses nouvelles réponses sur cette question. Vous vous apprêtez à porter plainte sans réponse de Richard Ferrand?
Absolument. Absolument. Alors, en sachant qu'on ne veut pas non plus charger la barre contre ce ministre qui a trahi pas mal de partis politiques et de personnalités, mais c'est pas le sujet. C'est le
donc
sujet.
Vous ne chargez pas la barre.
Non, je passe. C'est vraiment. On ne demande pas spécialement sa démission, même si à mon avis il est inéluctable. C'est plutôt le système, parce que l'affaire Cahuzac, puis il y en a eu d'autres, il y en a tout le temps. Et même s'il y a des améliorations, il faut le reconnaître, hein, il y a eu des législations qui se sont améliorées, et ben malgré tout, ça continue. Ces gens-là sont hors sol.
Je voulais vous, voilà, exactement. Alors, précisément, Jean-Luc Touly, je voulais vous parler précisément à un moment, et on a tous conscience du contexte. Je me permets de vous couper en pleine phrase, simplement parce que. Il y a une tradition française de cette monarchie républicaine. On peut pas être surpris. On sait très bien qu'il y a aussi ces dîners fastueux. C'est pas nouveau. C'est pas François de Rugy qui a inventé ça. On sait très bien qu'il y a ces pratiques. Les choses sont en train de changer pour vous. Toutes ces pratiques sont absolument anormales.
Elles sont anormales, d'autant plus avec le récent mouvement des Gilets jaunes. Puis quand vous voyez en Angleterre, c'est une monarchie. Vous voyez dans les pays scandinaves où il y a aussi des monarchies, où il y a des règlements, où lorsque vous dépassez une note de frais qui existe et que vous justifiez de 10 euros, vous perdez votre mandat. Nous, il faut rajouter beaucoup de zéros pour qu'on commence à s'intéresser aux problèmes qui ne sont jamais connus par les institutions, mais par les journalistes. D'ailleurs, je félicite les journalistes de leur travail d'investigation. Mais est-ce que c'est bien normal ?
Vous comprenez bien que c'est une vraie question, d'ailleurs, que vous posez, celle des journalistes, parce qu'il faut ce travail, il faut ces enquêtes, c'est nécessaire. Jean-Luc Touly, mais vous entendez bien qu'on est en train de parler parfois de l'égalité, parfois de moralité.
Oui, il y a les deux.
Il y a les deux. Non mais voilà, François de Rugy, a priori pour l'instant, il faut évidemment tout vérifier, tout compter, mais
absolument,
l'histoire de ces dîners peu choquée n'est pas forcément condamnable.
C'est pas forcément
faudra
condamnable.
Vérifier. Je prends des pincettes,
faudra
évidemment.
Vérifier. C'est pour ça qu'on a demandé au président Richard Ferrand de nous communiquer. Pour l'instant, il ne nous a pas répondu depuis avant-hier soir. J'espère qu'il va le faire pour qu'on y voit plus clair.
Jean-Luc Touly, est-ce que vous avez été vous-même chez les Verts ? Je vous pose la question, je ne connais pas la réponse du tout. Vous le connaissez personnellement ? Vous l'avez connu personnellement, François de Rugy ?
Non, je ne l'ai pas connu, mais par contre, des histoires comme ça, et je ne parle pas des couples chez les Verts, où il y a eu beaucoup de choses assez étonnantes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est navrant, mais on a eu des personnalités importantes chez les Verts, Europe Écologie Les Verts, où vous avez des couples de personnalités qui ont été députés, sénateurs, ministres, etc. Et il y a eu toujours des histoires un peu derrière. Alors je dis pas que c'est
pas que chez les Verts,
uniquement chez les Verts, bien évidemment, mais c'est vrai que ce parti relativement nouveau, enfin créé il y a 35 ans, a rattrapé beaucoup de retard par rapport au vieux parti.
Dernière question, Jean-Luc Touly, est-ce que la réaction, est-ce que la défense de François de Rugy vous surprend ?
Non, je suis surtout surpris de la position du président, parce qu'il y a eu l'affaire Benalla, et donc si on veut faire des épisodes pendant toutes les vacances sur ce sujet, alors que ce ministre de l'écologie, sujet extrêmement important, il est grillé, si vous voulez, il ne s'agit pas de lui taper dessus, mais je veux dire, il fallait tout de suite le débarquer, pour nommer quelqu'un d'autre. Alors c'est vrai, déjà Nicolas Hulot était parti de lui-même, alors effectivement c'est difficile, mais l'écologie étant le problème, un des problèmes essentiels avec le côté social, c'est vrai qu'il est, il est plus crédible quoi maintenant.
Merci Jean-Luc Touly, beaucoup d'appels ce soir au 39-21, on va vous entendre en direct sur Europe 1. Merci Jean-Luc Touly, président de l'association, alors je le dis en entier d'abord, Front Républicain d'Intervention contre la Corruption, le FRIC, co-auteur de Recaser de la République aux éditions First en 2015. Merci Jean-Luc Touly, 18h15.
Jusqu'à 19h sur Europe 1, Mathieu Béliard et votre grand journal du soir.
Une action surprise aujourd'hui à Paris. Plusieurs centaines de sans-papiers ont investi le Panthéon pour réclamer leur régularisation et un rendez-vous auprès du Premier ministre. Ils agissent au nom d'un collectif baptisé les Gilets Noirs. Jean-Sébastien Soldaini, vous êtes sur place pour Europe 1. Bonsoir Jean-Sébastien.
Bonsoir.
Ces manifestants ont été évacués du Panthéon après 3 heures d'occupation.
Ouais, cela fait maintenant une heure qu'ils ont été évacués dans le calme. Évacués du Panthéon, mais parqués derrière le bâtiment dans la rue, sous la façade du lycée Henri IV. Et c'est plus calme qu'au moment de leur arrivée, sous les yeux de Louise, une étudiante en droit.
Les sans-papiers ont dû arriver et les gens ont eu peur parce qu'ils étaient manifestement très nombreux. Ils sont arrivés en hurlant et on a entendu un gros bruit, des hurlements et des gens sortir en courant du Panthéon. Qui avait l'air assez affolé. Enfin, de ce que nous on a vu, mais après on était sur le côté, donc on a vu sortir, enfin voir des gens essayer de sortir, et puis la grille était fermée, donc ils ont un peu cherché par où sortir. Mais après, voilà, on est parti assez rapidement.
Pendant l'occupation des lieux, un mégaphone diffuse l'ambiance à l'intérieur du Panthéon. Les soutiens sont à l'écoute. Parmi eux, Fofana, sans-papier du collectif Gilets Noirs, considère qu'il faut donner plus de visibilité à leur cause.
Panthéon, c'est cœur de Paris. Tout le monde sait que Panthéon est visible. On doit montrer à l'État français que on n'est pas invisible, nous. Parce qu'aujourd'hui, en France, on est là, on est partout. On travaille, on paye les impôts, mais on n'est pas régularisé, on n'est pas reconnu. On est devenu comme marchandise, quoi. Bon, on dit, arrête, on ne veut plus ça.
Pour l'instant, le Panthéon reste fermé au public et les manifestants assurent qu'il n'y a eu aucune dégradation à l'intérieur.
Merci Jean-Sébastien Soldaini au Panthéon pour Europe 1 ce soir. Il est 18h17.
18h, 19h, Mathieu Béliard sur Europe 1.
Le rappel de l'information avec Thibault Lambert.
Il a voulu sauver sa tête en offrant la mienne. L'ancienne directrice de cabinet accuse François de Rugy. Nicole Klein, touchée comme son ministre par les révélations de Mediapart. Il avait demandé son départ mercredi pour avoir conservé un logement HLM à Paris pendant 12 ans. 99 mètres de long, 5300 tonnes en plongée. Le Suffren inauguré aujourd'hui à Cherbourg en présence du président Emmanuel Macron. Ce sous-marin nucléaire d'attaque dernier cri est le premier d'une série de 6 navires destinés à renouveler les bâtiments français. Le Tour de France et la 7e étape est remportée par le néerlandais Groenewegen. L'italien Giulio Ciccone conserve le maillot jaune. Une longue étape encore demain, 200 km accidentés entre Mâcon et Saint-Étienne.
Merci beaucoup Thibault Lambert, 18h17. Vous êtes sur Europe 1 et vous allez continuer à réagir évidemment comme vous le faites par exemple sur le cas François de Rugy. On va parler d'autre chose dans un instant. Vous vous souvenez évidemment de l'affaire des bébés sans bras. Des conclusions d'un comité d'experts indépendants ont été rendues hier soir. Les familles sont déçues, on en parle dans quelques secondes. À tout de suite.
Il est 18h20, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard.
Vous vous souvenez bien sûr de cette affaire, l'affaire des bébés sans bras. J'en disais un mot il y a un instant, des dizaines de cas, des enfants nés sans bras ou sans main, dans le Morbihan, dans la Loire-Atlantique ou dans l'Ain. Face à la mobilisation des parents, on en avait beaucoup parlé. Les autorités ont finalement relancé des investigations, notamment via un comité d'experts indépendants. Ces experts ont rendu leurs conclusions ce matin. Bonsoir Mélanie Gomez.
Bonsoir.
Vous êtes notre spécialiste santé à la rédaction d'Europe 1 et... Pour les familles, les conclusions de ce comité sont décevantes.
Alors oui, évidemment, on les comprend. Au bout de ces mois d'enquête, ils espéraient au moins obtenir quelques pistes sur les causes des malformations de leurs enfants. Alors effectivement, d'abord, à ce stade, aucune hypothèse n'a été retenue par ces experts. Ils ont rappelé ce matin que c'est extrêmement difficile, scientifiquement, de trouver si un produit chimique ou même un médicament a pu provoquer ces malformations au cours de ces grossesses qui, rappelons-le, ont eu lieu il y a 5, 6 ou même plus de 10 ans pour certains enfants. Et puis, ce qui a frossé aussi ces familles, notamment dans l'Ain, c'est que plusieurs cas d'enfants nés avec une malformation au bras n'ont pas été retenus dans cette enquête car ils n'avaient pas exactement le même type de problème au final. Et surtout, dans l'Ain, la conclusion, c'est qu'il n'y a même pas plus de cas que la moyenne, donc pas de cluster, comme on dit en épidémiologie. À Guidel, dans le Morbihan, par contre, oui, 3 cas confirmés de bébés nés sans bras dans ce même village sur une période de 18 mois. Dans l'Ain, donc, 6 cas retenus, mais sur plusieurs années et dans 6 communes différentes. Donc, conclusion, pas d'excès de cas dans l'Ain.
Donc à ce stade, Mélanie, c'est terminé, on ne saura jamais ce qui s'est passé.
Alors l'enquête ne va pas s'arrêter là exactement, en tout cas à Guidel, dans le Morbihan, au moins d'autres analyses seront faites, mais ces experts ont également déjà dit que peut-être effectivement on ne trouvera jamais ce qui s'est passé, la substance en cause, ou alors c'est tout simplement, malheureusement, le hasard.
Merci beaucoup Mélanie Gomez, 18h21.
Vous avez un avis sur l'actualité, partagez-le en appelant au 3921, le standard d'Europe 1.
C'est Philippe qui est en direct avec nous ce soir. Bonsoir Philippe.
Bonsoir Mathieu Béliard.
Merci d'avoir composé le 3921. On va parler de François de Rugy. Alors, petite précision.
Je peux dire juste un mot avant ?
Allez-y.
Vous dire que vous avez fait une super saison, que j'adore votre façon d'être journaliste.
Merci Philippe.
Je vous souhaite un bel été, une belle matinale à la rentrée. Si elle est aussi bien que ce soir, que les soirs, ça va être parfait.
Philippe, je vous remercie du fond du cœur et permettez-moi aussi de saluer toute l'équipe qui travaille avec moi du coup. Oui. D'en profiter, c'est ma dernière de la saison ce soir. Et donc Philippe, permettez-moi de remercier toutes les personnes qui travaillent dans ce grand journal du soir. J'allais le faire à la fin, en particulier Marc Messier qui est le rédacteur en chef. Que vous n'entendez pas, mais qui est pour beaucoup dans ce journal. Philippe, on parle de François de Rugy.
Oui.
Vous êtes nantais.
Absolument.
Donc je crois que François... vous êtes même légitime pour vous exprimer.
Légitime, je ne sais pas, mais en tout cas, François de Rugy était le député en plus de ma circonscription. Et cette affaire, entre guillemets, si c'en est une, et je crois que c'en est une, moi je trouve ça désastreux. Surtout après le mouvement des Gilets jaunes, avec tout ce qui s'est passé, les 6 mois de grand débat, j'ai l'impression que tout est remis à zéro et qu'en septembre, ça risque de repartir de plus belle. Alors, il y a eu des explications. Maintenant, il y a Internet et c'est terrible Internet parce qu'on voit dans la journée, on a revu des tweets qui remontent de 2012-2013 où il se disait manger des araignées, etc. Il nous dit qu'il fait une intolérance aux crustacés. Enfin, bref, tout ça. Je trouve ça assez déplorable, assez inquiétant pour le pays.
On n'a pas tout le détail. Hein. Il y avait des homards à table, on n'est pas sûr qu'il en ait mangé lui-même, Philippe.
Non, c'est pas ce que je dis, mais dans un tweet de 2013 ou 2012, je sais plus, il y en a deux qui circulent. Dans l'un où il parle des huîtres et l'autre, il dit bon début de vacances, je viens de manger un homard grillé, un maquereau, grillé avec en entrée une araignée. Une araignée, pour moi, c'est un fruit de mer. Alors moi, si je mange des vraies araignées, je ne sais pas.
C'est dommage, enfin, bref, c'est dommage Twitter, que... c'est difficile. Philippe, parce que ça laisse des traces, évidemment. Vous, pour vous, je ne vous demande pas si vous êtes convaincu ou pas, s'il est coupable ou pas, il y a la question légalité, moralité, ce n'est pas forcément à nous de trancher cela. Mais pour vous, il doit partir du ministère de la Transition écologique ?
Moi, je pourrais, enfin, je n'ai pas de leçon à donner, mais là, je me dis que ça va être très, très compliqué. Moi, je ne sais pas effectivement s'il est coupable de quoi que ce soit, mais c'est l'image, c'est simplement l'image. Monsieur de Rugy était... le chantre, entre guillemets, de la moralité, avec M. Bayrou, qui se fait très silencieux d'ailleurs sur ces dossiers. Et puis là, on s'aperçoit que c'est comme les autres, j'espère pas comme tous les autres, mais je trouve que ça va être difficile. Vous avez vu le déplacement d'hier dans les Deux-Sèvres. Si c'est comme ça à chaque fois, en plus, il est ministre de l'écologie, et l'écologie, c'est un domaine hyper important actuellement. Comment va-t-il récupérer sa crédibilité? Ça va être franchement très compliqué. Je veux pas l'accabler, je veux pas... Il avait l'air quand même assez ému, etc. Donc je me mets à la place de l'homme aussi qui doit souffrir.
Attention, il n'est pas question de l'accabler. Voilà. On a une question de moralité qui est posée. Pour certains dossiers, une question de légalité aussi. Il faut voir comment l'exécutif choisit de trancher ces questions précisément, comment l'opinion les accepte aussi. C'est important. Philippe, je vous remercie d'avoir pris la parole. On va parler de la défense de François de Rugy à 18h40 et puis de la majorité qui le soutient vraiment ou du bout des lèvres dans les interviews. Ce sera avec Aurélie Herbemont du service politique. À 18h40. Philippe, merci beaucoup d'avoir composé le 39-21 ce soir en direct sur Europe 1.
Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe 1, 18h25, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard et on enfile les crampons.
Oui, on va parler de football, les crampons ou la télécommande. On met des piles dans la télécommande.
Ça dépend.
On n'est pas tous autant sportifs les uns que les autres. Henri de Laguerre est à Barcelone, notre correspondant. Bonsoir Henri.
Bonsoir Mathieu.
On l'a appris dans l'après-midi, le chouchou des Français, le bleu Antoine Griezmann, ça y est, c'est officiel, il signe au FC Barcelone. Après avoir tergiversé l'an dernier, et puis finalement il avait décidé de rester à l'Atlético Madrid, du coup les supporters barcelonais sont méfiants, maintenant il va falloir qu'il fasse ses preuves.
Oui, effectivement. Alors, c'est vrai, personne ne remet en cause les qualités sportives de Griezmann. C'est un immense joueur, mais dans le vestiaire, ça ne déborde pas d'enthousiasme. Luis Suarez sait qu'il pourrait se retrouver sur le banc. Messi, lui, n'est pas très emballé. Et les supporters non plus. Écoutez, Victor.
Oui, on est un peu dubitatif, exactement. On n'est pas sûr s'il est validé, entre guillemets, par les grands stars de Barcelone, Messi et Suarez. Je ne sais pas comment il va arriver dans les vestiaires. On va voir. Je crois que la sensation générale, c'est prudence. J'aimerais bien les voir. Tu vois, en Catalogne, on est très prudent pour ça. Si on ne voit pas, on ne croit pas.
Voilà, et c'est vrai que l'image du Français est écornée ici. Souvenez-vous, vous l'avez dit l'été dernier, alors qu'on attendait son transfert, il s'était mis en scène dans une vidéo pour expliquer qu'il restait finalement à Madrid. Ce volte-face avait agacé, il avait d'ailleurs hérité ici du surnom de Girouette. Et lors du dernier Barça-Atlético, il était copieusement sifflé par le Camp Nou. Alors dimanche, ça ne risque pas de se reproduire. La présentation du joueur n'est pas ouverte au public, car officiellement la pelouse du stade est en cours de remplacement. Voilà qui arrange un peu tout le monde. Mais allez, ce sera très vite oublié si Griezmann marque des buts et permet à son nouveau club de retrouver enfin les sommets en Europe.
Merci beaucoup Henri de Laguerre, notre correspondant à Barcelone. Vous êtes sur Europe 1, il est 18h27.
Et dans un instant, dans votre grand journal du soir, Mathieu Béliard, vous recevrez Jean-Charles Fombonne, le président de la SPA. Il est 18h30, c'est votre grand journal sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard.
Un nouveau point sur l'information avec Thibault Lambert.
Le ministre de l'Intérieur promet un dispositif renforcé pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations dimanche. 74 personnes ont été interpellées hier après des scènes de pillage et de dégradation, notamment à Paris. À Montpellier, une femme est morte fauchée par un supporter. Son bébé d'un an est toujours entre la vie et la mort. Prudence sur les routes, bison futé voit orange ce soir en France dans le sens des départs et rouge en Ile-de-France. Demain, la journée est classée orange dans tout le pays. Le prévisionniste conseille de quitter les grandes villes avant 9h. De la Copa de la marque Di Vittorio, contaminée par des salmonelles retirées des rayons d'Intermarché. Les autorités sanitaires appellent tous ceux qui en ont acheté entre le 17 mai et le 8 juillet à ne pas en consommer. Et puis la qualification de Djokovic en finale de Wimbledon après sa victoire face à Bautista Agut après 4-7, 6-2, 4-6, 6-3, 6-2. L'autre demi-finale se dispute actuellement entre Nadal et Federer. Et on est toujours dans le tie-break du premier set.
Merci beaucoup Thibault Lambert, 18h31.
18h-19h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard sur Europe 1.
Et votre invité Mathieu, Jacques-Charles Fonbonne, président de la SPA.
Bonsoir Jacques-Charles Fonbonne.
Bonsoir Mathieu.
Merci d'être en direct avec nous, c'est bien normal. Alors il y a ce petit chiffre, toute petite étude citée dans le Parisien aujourd'hui en France ce matin. 33% des Français se disent incapables de partir en vacances sans leur animal de compagnie. On y découvre dans le détail que 40% des propriétaires de chiens partent avec leurs chiens, sont incapables de partir sans. 30% des propriétaires de chats, ils sont même prêts pour la plupart à payer plus cher leurs vacances pour être avec l'animal de compagnie en question. Ça vous surprend? Ça ne vous surprend pas beaucoup?
Non, ça ne me surprend pas. Je suis content que le chiffre soit aussi important. J'espère que les 60-70 autres pourcents ont pris leur disposition pour pouvoir faire garder leur animal s'ils ne peuvent pas ou s'ils ne souhaitent pas absolument l'emmener avec eux.
Alors dans les destinations, je termine avec ce sondage et puis on parle de votre campagne, on voit que la destination favorite de ces Français avec un animal de compagnie, c'est la Bretagne, de grandes plages, de grands espaces, peut-être qu'on y accueille mieux les animaux de compagnie. Ça s'organise des vacances quand on a un animal de compagnie. Vous êtes satisfait de voir qu'autant de Français l'emmènent avec eux, c'est un membre de la famille, on le rappelle, mais sinon on le fait garder, on s'organise.
Alors, c'est le principe que nous essayons de faire germer dans l'idée des gens qui nous, viennent nous adopter des animaux, ce qu'on appelle l'adoption responsable, c'est-à-dire qu'on commence, au moment où on a le projet de recueillir un animal ou de l'adopter, à se projeter dans l'avenir et à se dire que se passe-t-il pour les prochaines vacances, que se passe-t-il dans un an, dans deux ans, sa vie, 10, 15 ans, un animal. Et c'est pas le 30 juin ou aujourd'hui 12 juillet qu'il faut se poser la question de savoir ce qu'on va faire de l'animal demain.
Ça coûte cher de faire garder un animal pendant qu'on est en vacances?
Ça peut ne rien coûter d'abord parce que on dit que l'animal est néophobique. Hein, ça fait très savant de dire ça.
Néophobique, hein, la peur de la nouveauté?
Voilà, il a peur de la nouveauté. Donc il a besoin de son environnement. Si on peut le faire garder par un voisin, par un ami, par un parent, quelqu'un que déjà il connaît les lieux, ça va infiniment mieux se passer. Et puis si on n'a pas d'autre solution, il y a des sites sur internet, il y a par relation des pensions, ça coûte on va dire autour de 20-25 euros en région parisienne, donc c'est un vrai budget.
Par jour,
ça fait 600-650 euros pour le mois de vacances, mais que fait-on autrement? On le laisse au bord d'une route, on le laisse accrocher aux grilles de l'autoroute, c'est évidemment pas possible. C'est déjà un délit.
Il faut le rappeler, c'est condamnable.
Oui, c'est un délit, c'est deux ans de prison.
C'est illégal, c'est pas seulement moralement inacceptable.
Non, c'est
illégal.
Moralement inacceptable, mais c'est surtout une infraction pénale. Inscription quasi-judiciaire, tribunal correctionnel et tout ce que l'on connaît en matière de délit. Et puis ce qu'il faut comprendre, parce que ça me paraît important de le dire, c'est qu'un animal abandonné, il ne survit pas. C'est un animal domestique, il n'est pas capable de chasser, il n'est pas capable de se débrouiller. Il va être soit écrasé par une voiture, soit ramassé par la fourrière. Et la fourrière, c'est un service public communal. Ça veut dire 8 jours à la fourrière. Si le propriétaire n'est pas identifié, si le propriétaire ne se déplace pas, ça veut dire que l'animal est euthanasié. Sauf si on a la chance d'avoir à côté une association de protection animale, un de mes refuges ou celui d'une autre association. Sauf qu'on est évidemment à bloc en termes de capacité pendant les mois d'été et que l'animal, il est condamné à une mort quasiment certaine.
J'invite nos auditeurs à se rendre sur le site de la SPA, la Société Protectrice des Animaux. Faites taire les souffrances de l'abandon. Votre campagne choque cette année. Vous avez choisi de clairement y aller.
Ouais.
Et heurter les sensibilités.
Oui, il faut heurter. Alors, je ne veux jamais faire dans le pathos parce qu'il ne faut pas culpabiliser les gens. Si les gens viennent nous abandonner un animal, on ne leur demandera jamais la raison pour laquelle ils le font. On ne leur fera jamais la morale. On préfère qu'ils nous remettent l'animal. Au moins, on va le soigner, on va le sauver, on va le protéger plutôt que de l'abandonner lâchement n'importe où. On voit toujours des animaux. Cette année, on a décidé de les faire entendre. C'est-à-dire que si vous allez effectivement sur notre site, la-spa.fr, vous allez entendre le hurlement d'un animal abandonné. Je trouve que c'est plus interpellant. Ça fait davantage appel à l'imagination des gens qui vont entendre cet aboiement plutôt que des photos, j'allais dire, qu'on a déjà vues, malheureusement, parce que la maltraitance animale se reproduit sans arrêt.
Jacques-Charles Fonbonne, je suis un particulier. Je suis en vacances ou pas, d'ailleurs, près de chez moi. Je tombe sur un chien qui est tout seul, qui est très clairement tout seul, qui erre. Je fais quoi? J'appelle... Alors les forces
déjà,
de l'ordre, j'appelle la SPA.
La première chose, urgence, lui donner à boire, lui donner à manger. Avec la chaleur qu'il fait, les chiens, les chats, ils ont besoin absolument de boire. Ensuite, la première hypothèse, c'est que vous pouvez le garder avec vous. Et puis, je dirais, l'adopter provisoirement avant de solliciter les autorités. vous prenez votre smartphone, vous trouvez la première association, que ce soit la SPA ou une autre association, il y en a des plus petites qui font un travail extraordinaire, vous les appelez, ils vont venir chercher l'animal et on va le sauver, on va l'identifier. Les chiens, les chats normalement sont pucés, on a des appareils pour les identifier, on va appeler le propriétaire parce que quelquefois c'est un animal qui s'est perdu. Ses propriétaires sont en vacances, il est allé voir sur la plage à côté comment ça se passait, il n'a pas ses repères, il s'est perdu. Je pense que les propriétaires sont contents qu'on puisse le faire identifier. Dans le pire des cas, si vous êtes complètement désemparé, vous appelez les gendarmes, vous appelez la police. Très franchement, je pense qu'en période estivale, sur les zones de grande migration, ils ont vraiment, vraiment d'autres choses à faire, que ça ne va pas passer en priorité. Appelez le refuge le plus proche.
Alors, je rappelle ce chiffre, 33% des Français se disent incapables de partir en vacances sans leur animal de compagnie. Quand on prend notre chien ou un chat en voiture avec nous, qu'on prend la route, qu'on voyage, il y a aussi quelques précautions à prendre. On va rappeler des choses basiques, comme on ne laisse pas un animal dans une voiture pendant qu'on est sur une aire de repos.
Non, ensuite, on prévoit, c'est comme pour l'adoption, on se projette un peu. Que va-t-il se passer s'il y a 5 heures d'embouteillage, si je tombe en panne, si je suis obligé de l'attendre la dépanneuse pendant 3 heures au bord de la route? On prend des croquettes, surtout on prend de l'eau, et puis on laisse évidemment pas l'animal dans une voiture où il fait 40-50 degrés, en quelques minutes le chien est mort. Si l'on est témoin de cet acte qui est un acte
de sévice... On a le droit de briser une vitre, d'une voiture, on voit un chien dedans?
Alors en droit, c'est ce qu'on appelle l'état de nécessité. Maintenant, oui évidemment il faut le faire, mais il faut avoir quand même quelques précautions d'honnête père de famille. On essaye de trouver un ou deux témoins qui
soient présents. Je rappelle que vous êtes un ancien général de gendarmerie.
Ouais, vous savez, le naturel ressort toujours. Ça me collerait à la peau.
Bon père de famille, on regarde autour de nous.
Est-ce que, monsieur, vous acceptez de témoigner du fait que je ne suis pas en train de voler la voiture, mais qu'il y a un animal? On sort son smartphone, on fait une vidéo.
Ça tourne sur les réseaux sociaux d'ailleurs, comme
ça
conseil.
Ça tourne sur les réseaux sociaux, effectivement. C'est-à-dire que c'est vous qui m'avez tendu la perche. La preuve en matière pénale est libre à condition qu'elle puisse convaincre ceux qui auront à en juger.
Merci beaucoup Jacques-Charles Fonbonne, je le redis, ancien général de gendarmerie à la retraite, aujourd'hui président de la Société Protectrice des Animaux. Merci d'être venu dans le studio d'Europe 1. C'est pas un sujet qui est très politique d'ordinaire comme on en a d'habitude à 18h30, mais là je sais que beaucoup sont sur la route en train de partir en vacances cette saison aussi. Merci beaucoup d'être passé par le studio d'Europe 1 pour répondre à nos auditeurs. Jacques-Charles Fonbonne, belle soirée à vous, 18h38.
Merci.
Europe 1.
Beaucoup d'entre vous partent en vacances avec un livre dans leur valise. À venir sur Europe 1, justement, on parlera de Passion, le livre de Nicolas Sarkozy, avec Mathieu Béliard et son invité, Muriel Beyer, directrice des éditions de l'Observatoire. C'est elle qui a édité le livre Passion de Nicolas Sarkozy, probable best-seller. À 41, belle soirée avec Europe 1. Mathieu Béliard et votre grand journal du soir.
On vous l'apprenait hier soir, François de Rugy maintenu en poste malgré les révélations de Mediapart, ses dîners fastueux à l'hôtel de la Selle, la rénovation de son logement de fonction, entre autres. On en reparle ce soir avec Aurélie Herbemont du service politique de la rédaction. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Mathieu.
D'abord, les derniers développements. Sa directrice de cabinet, limogée hier, ne mâche pas ses mots aujourd'hui.
Il a voulu sauver sa tête en offrant la mienne. Voilà la riposte pour le moins cinglante de Nicole Klein dans Ouest France. La préfète, vous le disiez, a été débarquée après les révélations sur son logement HLM qu'elle a conservé de 2006 à 2018 alors qu'elle n'était plus en poste à Paris. L'ancienne directrice de cabinet n'est pas tendre quand on l'interroge sur la personnalité de François de Rugy. La manière dont il m'a congédiée suffit pour répondre à votre question et je ne souhaite pas en dire davantage pour ne pas l'accabler. Bref, un règlement de compte véhément et plutôt inhabituel de la part d'un préfet.
François de Rugy lui-même, comment est-ce qu'il se défend aujourd'hui ?
Eh bien, il a passé près de 30 minutes ce matin sur BFM, très en colère et parfois au bord des larmes, assurant ne pas avoir de raison de démissionner. François de Rugy défend sa bonne foi au sujet de son appartement nantais, que Mediapart a qualifié de logement social. Lui se dit victime d'une tricherie de son agence immobilière. Quant au dîner fastueux, il explique ne pas aimer le homard et que le champagne lui donne mal à la tête. François de Rugy, qui se défend et attaque, il accuse Mediapart de mensonge et dénonce le fantasme des coupeurs de tête.
Est-ce qu'il est soutenu par ses camarades au gouvernement ou même dans la majorité ?
Alors, si le chef de l'État et le Premier ministre ne l'ont pas lâché, puisqu'il est encore là, et malgré les vérifications, vous savez, qu'ils ont mis en place hier et qui devraient prendre une semaine, eh bien, le ministre, on peut le dire, est un peu seul pour se défendre. Un de ses collègues, Gabriel Attal, lâche. Ça fout un peu les boules que ça alimente l'idée des politiques qui se gavent aux frais du contribuables. Benjamin Griveaux lui parle d'une image terrible quand le gouvernement demande des efforts aux Français. Le problème, tranche un conseiller, c'est que le homard est chrysogène après les gilets jaunes. Bref, on a connu des ministres beaucoup plus soutenus dans la tourmente.
Merci beaucoup Aurélie Herbemont du service politique de la rédaction d'Europe 1. Vous réagissez sur ce sujet comme vous le faites nombreux, nombreuses d'ailleurs depuis le début de ce journal. Au 39-21, 18h43.
Et tout de suite, Mathieu, vous recevez Muriel Beyer, directrice des éditions de l'Observatoire. C'est elle qui a édité le livre Passion de Nicolas Sarkozy.
Merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Muriel Beyer.
Bonsoir.
Le livre de l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, est un succès en librairie. Vous êtes son éditrice à l'Observatoire, donc est-ce que vous pouvez nous dire ce soir à combien de ventes est Nicolas Sarkozy, le livre Passion, selon vos comptes ?
Alors, selon mes comptes, donc on est à 197 867 livres facturés libraires. Et nous avons un autre, alors là c'est ce qu'on a facturé aux libraires, c'est-à-dire que vous savez qu'ils ont une faculté de retour, donc actuellement c'est ça. Et nous avons un autre moyen de compter, parce que c'est très difficile, on n'est pas du tout comme le cinéma, nous, avec les entrées. Il y a le fameux outil professionnel qui s'appelle GFK, qui est un institut de sondage, et sur 10 jours, il y aurait 71 000 39 ventes, plus Suisse et Belgique 8 000, plus le numérique 2 800. En fait, en gros, pour vous résumer, on est à 81 687 ventes estimées.
Vous avez dépassé
en 10 jours.
Les 80 000 en 10 jours. Le livre est sorti à la fin du mois dernier. Comparé à d'autres de ses ouvrages, à Nicolas Sarkozy, ou même, parce que c'est un peu comparable au livre de François Hollande dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, ça donne quoi ?
Alors, par rapport aux autres livres de Nicolas Sarkozy que j'ai eu la chance d'éditer, La France pour la vie et tout pour la France, ça part beaucoup plus fort et beaucoup plus vite. La France pour la vie, on avait vendu un peu moins de 200 000 et tout pour la France, on était à 150, un peu plus de 150 000, mais c'était un programme. Là, ça part extrêmement fort et si on a 81 000... 687 ventes en 10 jours, François Hollande ayant vendu 110 000, voilà, vous avez la proportion.
D'accord, pour le match entre les anciens présidents de la République.
C'est pas vous, un vous match dites... parce que non, Nicolas Sarkozy a vendu beaucoup plus, toujours.
François Hollande n'est pas édité à l'Observatoire ?
Il n'est pas édité à l'Observatoire et il a vendu très bien son livre chez Stock, mais bon, vous me parlez de chiffres, je vous réponds chiffres.
Évidemment. Non, vous disiez par rapport à Nicolas Sarkozy, par rapport à ses autres ouvrages, ça pourrait être son livre le plus vendu.
Oui. Parti comme c'est, comme en plus, bon, il va vendre tout l'été, il fait des signatures, et c'est une folie, parce que pour vous donner une idée, il a signé quand même 800 livres en 2 heures à Deauville. Donc c'est quand même assez énorme. Il a signé 750 livres à Kléber, à Strasbourg. Enfin, c'est assez énorme. Voilà. Et ça part beaucoup plus fort que les précédents.
Vous avez des attentes importantes sur la saison qui arrive, je l'entends bien, avec l'été, les commandes, on en a parlé. Que vous disent les libraires ensuite en termes de fonds ou les lecteurs?
Alors, pour le moment, les lecteurs, dans les gens qui ont lu, on n'a pas toujours beaucoup de retours de lecteurs, mais les lecteurs qu'on a, nous, bon, ils trouvent que c'est toujours pareil. Les gens qui adorent Nicolas Sarkozy trouvent que c'est formidable. Ceux qui l'aiment moins, probablement moi, vous savez, après. Mais globalement, on a plutôt des retours extrêmement positifs sur ce livre qui n'est pas un livre politique. Donc, je pense que ça explique aussi le succès assez fort. C'est pas un livre politique, c'est un livre de souvenirs.
C'est un livre de souvenirs, je rappelle, qui va jusqu'à 2007. Du coup, voilà. J'imagine que vous avez déjà lancé les avaloirs, les préparations pour la suite 2007-2019.
Pas encore, parce qu'il ne fonctionne pas du tout comme ça, Nicolas Sarkozy. En général, il me dit quand il a fini. Je savais qu'il écrivait, bon voilà. Il me dit quand il a terminé et on fait le contrat. Des fois, le livre est déjà en librairie. Vous voyez, pas du tout une discussion, c'est une question vraiment de relations personnelles.
Alors, puisqu'on est dans vos relations personnelles, une dernière question. Nous, vous savez, dans les médias, on a tendance à scruter les audiences au jour le jour. Est-ce que Nicolas Sarkozy vous appelle tous les jours pour savoir, alors on en est à combien ? Alors, est-ce que mon livre se vend ? Que disent les libraires ?
Oui. Ouais. Oui, bien sûr, c'est normal, surtout en période là, il est sorti à 10 jours, donc ça marche énormément, et donc il est très content, et c'est normal que, moi je trouve ça assez touchant, qu'un auteur téléphone tous les jours pour savoir un peu comment ça se vend, voilà, comment ça marche, je trouve ça assez bien, moi.
Eh bien écoutez, merci beaucoup Muriel Beyer de nous avoir communiqué ces chiffres sur Europe 1 ce soir dans le journal. Muriel Beyer, directrice des éditions de l'Observatoire, et donc éditrice du livre Passion de Nicolas Sarkozy. Merci beaucoup, belle soirée.
Bonne soirée.
18h, 19h.
Mathieu Béliard sur Europe 1.
Le rappel de l'info avec Thibault Lambert.
Le transfert d'Antoine Griezmann au FC Barcelone contesté par son ancien club. Pour l'Atlético Madrid, la somme de 120 millions d'euros n'est pas suffisante depuis que l'attaquant a rompu unilatéralement son contrat. Le club madrilène va lancer une procédure pour défendre ses intérêts. Ses propos antisémites avaient provoqué l'indignation. 2 mois de prison avec sursis pour l'homme qui avait insulté Alain Finkielkraut en février dernier. Ce gilet jaune avait violemment pris à partie le philosophe en marge d'un samedi de manifestation. L'occupation du Panthéon à Paris cet après-midi par des sans-papiers africains. Ces manifestants qui se font appeler les Gilets Noirs ont été évacués dans le calme un peu avant 17h. Ils demandaient à être reçus par le Premier ministre pour régulariser leur situation.
Merci beaucoup Thibault Lambert. Vous restez bien sur Europe 1. Dans quelques instants, c'est un petit cadeau. Un tout petit cadeau pour ceux qui partiraient en vacances. Moi, j'adore Roberto Alagna. Je dois le dire, pas forcément... Allez, je le dis. Moi, Roberto Alagna, ténor de classique, j'aime beaucoup son album de reprise de Luis Mariano. Je sais que c'est un petit peu honteux, mais j'aime beaucoup cet album que j'ai à la maison. Après ça, il y a une exclusivité énorme de Thierry Geffrotin. Chez Sony, on a gardé le suspense, le secret le plus total, parce que Roberto Alagna est en train d'enregistrer un album hommage à Caruso. Thierry Geffrotin a pu assister à quelques sessions d'enregistrement de Roberto Alagna. On va le retrouver dans un instant. Restez bien sur Europe 1.
18h51 sur Europe 1, Mathieu Béliard et votre grand journal du soir.
Un mot de cinéma ce soir à 18h51 avec Mathieu Charrier du service culture de la rédaction. Bonsoir Mathieu.
Bonsoir à tous.
On l'a appris aujourd'hui, Gustave Kervern et Benoît Delépine annoncent un nouveau film avec Blanche Gardin, l'humoriste Blanche Gardin à l'affiche, Denis Podalydès également. Un film qui fleure le gilet jaune, Mathieu.
Oui, ce qui est amusant, c'est que Kervern et Delépine parlaient de cette idée de film avant la crise des Gilets jaunes. Ils la présentaient avec ces mots. C'est l'histoire d'une révolte de gens qui payent trop cher leur diesel et qui se font couillonner dans leur lotissement. Officiellement, avec les manifestations, ce projet avait été abandonné. Mais voilà qu'il revient donc sous une nouvelle forme. Le pitch, cette fois, révélé par nos confrères de La Voix du Nord. L'histoire de gens simples, largués par les outils numériques, mais bien décidés à se rebeller. Le titre, Effacer l'historique, en référence bien sûr à l'historique des navigateurs Internet. Le tournage devrait commencer mi-juillet à Arras, dans le Pas-de-Calais. Il ira aussi à l'île Maurice et aux États-Unis. Alors ce n'est pas un hasard si Kervern et Delépine s'attaquent à ce sujet. Eux qui font un cinéma social, leur dernier long-métrage, I Feel Good, porté par Jean Dujardin, se déroulait dans une communauté Emmaüs. Et puis c'est également logique qu'ils aient recruté au passage Blanche Gardin, elle aussi très engagée, notamment dans l'aide aux SDF. Elle avait refusé une décoration que voulait lui remettre Emmanuel Macron. Idem pour Corinne Maziero, la star de Captain Marlowe qui a cartonné cette année au cinéma avec Les Invisibles. Effacer l'historique pourrait donc sortir courant 2020.
Merci beaucoup Mathieu Charrier du service culture. On va encore parler de culture dans quelques secondes. Mathieu, merci beaucoup et bon week-end à vous, 18h53.
Restez avec nous, 18h53. Dans un instant, on attend vos appels au 3921 sur Europe 1.
Je voudrais qu'on ait une pensée pour ceux qui sont sur la route en ce moment, peut-être dans les bouchons. On va terminer ce journal avec une exclusivité Europe 1, mais dans la bonne humeur, de la musique avec l'une des stars mondiales, immense star de l'opéra, le ténor Roberto Alagna. 6 millions de disques vendus tout de même. Roberto Alagna qui enregistre un nouvel album qui doit sortir à l'automne. Bonsoir Thierry Geffrotin.
Bonsoir Mathieu.
Vous avez pu assister à l'une des toutes dernières séances d'enregistrement de ce disque qui fait l'objet de beaucoup de mystères.
Oh oui, et chez Sony, on veut garder la surprise. Alors, pas d'extrait, pas de rush à vous diffuser. Le programme précis de cet album, je ne vous le donnerai pas. D'ailleurs, je ne le connais pas. Ce que je peux vous dire, c'est que Roberto Alagna a choisi de rendre hommage à un ténor mythique, Enrique Caruso.
C'est l'hommage au plus grand ténor de tous les temps parce qu'il a été le premier ténor moderne. Je me souviens quand j'étais enfant, dès qu'on entendait une voix, on disait « Ah, c'est un futur Caruso ».
Donc ce sera un disque hommage à Caruso.
Absolument. Alors Roberto Alagna a choisi les extraits après avoir écouté les enregistrements de Caruso. Sa voix a été gravée au début du XXe siècle, de 1902 à 1921, l'année de sa mort. Une écoute attentive avec une obsession pour le ténor franco-sicilien, ne pas chanter comme Caruso.
C'est très difficile parce qu'il ne faut pas rentrer dans la caricature. On entend le phrasé, la couleur un peu de Caruso, mais on reconnaît quand même ma voix. Et donc voilà, il y a un juste milieu, ce qui est difficile.
Je vous le disais, le programme du disque est top secret. Alors je peux quand même vous dire qu'il y aura des chants sacrés, des airs d'opéra, des chansons populaires, tout ce qu'aime Roberto Alagna aussi. Il y aura des surprises également. Et moi je vais vous en offrir une, Mathieu. Quelques mesures d'un air de Rossini que Roberto Alagna a enregistré et qu'il chante ici a cappella, c'est-à-dire sans accompagnement. Il a accepté que je l'enregistre pour Europe 1.
Domine Deus,
Rex Celestis.
Voilà, la
c'est
suite.
Précieux.
Ouais, très précieux.
7 secondes. Vous savez quoi? Ouais. On se le remet.
Domine Deus Rex Celestis.
Et pour le reste, il faudra attendre l'automne.
Oui, l'automne.
Merci Thierry Geffrotin. L'hommage à Caruso par Roberto Alagna. On en reparlera évidemment à l'automne. Ah ouais, on a changé d'ambiance. 18h55 sur Europe 1. C'est l'heure de laisser la main au Club Tour avec Axel May. Bonsoir Axel.
Bonsoir Mathieu.
Rebonsoir en réalité. Alors l'étape du jour, Belfort, Chalon-sur-Saône, on l'a dit tout à l'heure, la plus longue de ce Tour de France. Dites-moi mon cher Axel.
Bah,
vous mangez bien, vous mangez bien dans la région là.
Alors là, j'ai pas trop eu le temps, mais vous avez retenu le nom du vainqueur ou pas, Mathieu, ce soir?
Non. J'arrête Dylan, les quiz.
Dylan Groenewegen.
Groenewegen, ouais, c'est ça. Je l'ai dit.
Oui, vous l'avez dit. Parfait. Sprinter explosif hein, après une étape. Là, vous avez raison. Interminable pour les coureurs. Demain, retour aux étapes dites 4. Casse-patte qui pourrait plaire aux grimpeurs puncheurs type Julien Alaphilippe. Alaphilippe, ça vous dit quelque chose, Mathieu?
Oui, il avait le maillot jaune jusqu'à il y a 24 heures.
Exactement. Et on se posera la question dans le Club Tour, est-ce qu'il peut récupérer à nouveau ce maillot jaune? On sera avec Patrick Chassé, notre expert, Thomas Veuclair, notre nouveau consultant européen. Et puis on se posera la question, 230 km sur un vélo comme aujourd'hui, est-ce humain? Ne faudrait-il pas interdire les étapes trop longues, tout simplement?
C'est pas à moi que vous posez la question. Hein.
Rassurez-moi cette fois.
Axel May, merci beaucoup. Merci. 19h20, le Club Tour, c'est sur Europe 1. Vous ne manquez rien du Tour de France. Et moi, je vais pouvoir en profiter de ce Tour de France à l'écoute d'Europe 1. Évidemment, l'après-midi, en écoutant Axel May s'énerver sur les routes du Tour. Je vous souhaite de très, très belles vacances à toutes et à tous. Un très, très bel été. Bon courage pour ceux qui bossent. Je vous souhaite une belle soirée, Fatima.
Merci. J'étais contente de faire ce petit bout de chemin avec
une
vous.
Fois. Hein. Voilà, enchantée Fatima. À suivre le journal avec Isabelle Millet.